Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 17 août 2022. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous à la une de nos informations. Le Mali dénonce au Conseil de sécurité les violations répétées de son espace aérien par la France. Au Cameroun, Human Rights Watch demande la libération d'Abdul Karim Ali, militant pacifiste anglophone. Au Kenya, le président élu William Ruto promet un gouvernement transparent qui va rendre des comptes. Israël et la Turquie ont entièrement rétabli leurs relations diplomatiques. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. Le Mali a demandé au Conseil de sécurité une réunion d'urgence pour faire cesser ce qu'il présente comme des actes d'agression de la France sous forme de violation de sa souveraineté. Bamako accuse Paris de soutien aux groupes djihadistes et d'espionnage. Le point avec Eric Manirakiza.
Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, dénonce dans une lettre les violations répétitives et fréquentes de l'espace aérien national par les forces françaises et les vols d'appareils français se livrant à des activités considérées comme de l'espionnage et des tentatives d'intimidation. Monsieur Diop affirmait que Bamako dispose de plusieurs éléments de preuve que ces violations flagrantes de l'espace aérien malien ont servi à la France pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes qui opèrent dans le Sahel et pour leur larguer des armes et des munitions. Dans cette lettre, il indique que le Mali se réserve le droit de faire usage de la légitime défense si les agissements français persistent. Monsieur Diop invite donc le Conseil de sécurité à œuvrer pour que la France cesse immédiatement ses actes d'agression et demande à la présidence chinoise de communiquer ces éléments aux membres du Conseil de sécurité en vue d'une réunion d'urgence. La lettre adressée à la présidence du Conseil de sécurité date du 15 août, qui marque aussi la fin de l'opération Barkhane au Mali, après 9 ans de présence dans le pays. Les autorités françaises n'ont pas réagi à ces accusations.
Au Niger voisin, une marche prévue ce mercredi à Niamey contre la présence de soldats français de la force Barkhane a été interdite. Le mouvement M62, un conglomérat d'organisations de la société civile qui a initié la marche, dit avoir pris acte de l'interdiction et a lancé une pétition en ligne et demande au régime du président Mohamed Bazoum de faire partie Barkhane ainsi que toute autre force dont l'objectif est de déstabiliser ou piller les ressources de notre pays et du Sahel. En Guinée, affrontement aujourd'hui entre des dizaines de jeunes et les forces de l'ordre dans la banlieue de Conakry, partiellement paralysé à la suite d'un appel à manifester contre la junte au pouvoir. Les groupes de jeunes ont affronté à coups de pierre les policiers et les gendarmes sur la route Le Prince, axe traversant la banlieue de la capitale et théâtre fréquent de telles confrontations. Les forces de sécurité ont riposté avec des gaz lacrymogènes. Le Front National pour la Défense de la Constitution, coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile avaient appelé à se mobiliser pacifiquement malgré l'interdiction de toute manifestation édictée le 13 mai par la junte et la décision de cette dernière de dissoudre le collectif la semaine passée. Human Rights Watch demande la libération d'Abdul Karim Ali. C'est un militant pacifiste anglophone détenu depuis le 11 août au Cameroun. Selon l'ONG des défenses des droits de l'homme, aucun chef d'accusation n'a été retenu contre lui. Nani Talani.
Human Rights Watch affirme qu'Abdul Karim Ali a été informé qu'il était accusé d'apologie du terrorisme pour avoir eu en sa possession sur son téléphone une vidéo montrant des violations présumées des droits humains commises par un militaire camerounais contre des civils dans les régions anglophones. Selon ses avocats, il a été arrêté à Baminda et est détenu dans des conditions déplorables dans une cellule de 6 mètres 2 sans fenêtre, son toilette Nimatula et partage cette cellule avec 12 autres détenus. Selon Human Rights Watch, Abdul Karim Ali milite depuis des années pour une résolution pacifique de la crise dans les régions anglophones. Réagissant à ces accusations, le porte-parole de l'armée, le colonel Cyril Atonfak Guémo, a répondu que Human Rights Watch, ses financiers et commanditaires ont leurs objectifs inavoués au Cameroun et nous avons les nôtres, protéger notre pays et ses institutions.
La junte au pouvoir au Tchad a interdit une manifestation prévue vendredi à l'appel de plusieurs partis d'opposition car ses organisateurs n'ont pas respecté le délai légal de dépôt selon le communiqué publié aujourd'hui par le ministre tchadien de la Sécurité publique. Wakitama, un collectif de partis d'opposition et d'associations de la société civile, avait appelé à manifester le 19 août contre le conseil militaire de transition dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno, le fils du défunt président Idriss Déby, au pouvoir sans partage pendant plus de 30 ans, tué en se rendant au front contre des rebelles en avril 2021. Le président élu du Kenya, William Ruto, promet que son futur gouvernement s'empresserait de répondre aux énormes attentes des Kenyans et rendrait des comptes. Abdourahmane Dia nous en dit plus.
L'actuel vice-président, déclaré vainqueur par la commission électorale il y a 2 jours, s'est engagé à mettre en place un gouvernement transparent, démocratique et qui rend des comptes. Il s'exprimait à Nairobi à l'issue d'une réunion avec les membres de sa coalition Kenya Kwanza. Les attentes des Kenyans sont énormes et par conséquent, nous n'avons pas le luxe de perdre du temps, a dit William Ruto. Selon lui, les Kenyans ont envoyé un message très clair aux dirigeants. Ils veulent que nous fassions avancer le pays, dit-il, un pays touché par une flambée des prix des denrées alimentaires et de l'essence amplifiée par la guerre en Ukraine. William Ruto a par ailleurs promis de veiller à ce que les fonctionnaires servent tous les Kenyans de manière égale, indépendamment de leur tribu ou de leur affiliation politique. Raila Odinga a rejeté les résultats de la présidentielle et promis de saisir la justice. Hier, Washington a appelé au calme et à la résolution des différends par des voies légales.
L'armée américaine a annoncé aujourd'hui avoir tué dans une frappe aérienne 13 miliciens du groupe islamiste Shebab qui s'attaquaient à des soldats des forces régulières somaliennes dans une zone reculée de ce pays de la Corne de l'Afrique. La frappe a été menée dimanche près de Tidam, à environ 300 km au nord de la capitale Mogadiscio, alors que des Shebab affiliés à Al-Qaïda étaient en train d'attaquer des soldats somaliens, a indiqué le commandement militaire américain en Afrique dans un communiqué. Le corps de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos sera remis à sa veuve pour être rapatrié et inhumé en Angola, a décidé un tribunal de Barcelone. Dans un arrêt rendu public ce mercredi, le sort de la dépouille de l'ancien chef de l'État angolais est au centre d'une bataille juridique entre sa veuve et l'une de ses filles depuis son décès à Barcelone le 8 juillet, surtout dans l'optique des élections prévues le 24 août en Angola.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël a annoncé le rétablissement total des relations diplomatiques avec la Turquie et le retour des ambassadeurs dans les deux pays. Ankara assure cependant qu'elle va continuer de défendre les Palestiniens. Yacouba Ouedraogo.
Il a été décidé de lever le niveau des liens entre les deux pays à des relations diplomatiques pleines et entières et de renvoyer les ambassadeurs et les consuls généraux dans les deux pays. C'est ce qu'affirme un communiqué du premier ministre israélien Yair Lapid. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, a assuré toutefois que la Turquie n'abandonnerait pas la cause palestinienne. « Nous continuerons de défendre les droits des Palestiniens », a déclaré le chef de la diplomatie turque. Les relations entre Israël et Ankara s'étaient tendues en 2010 avec l'affaire du bateau turc Mavi Marmara. Des forces israéliennes avaient lancé un assaut meurtrier sur ce navire, tentant d'acheminer de l'aide à la bande de Gaza, enclave palestinienne sous blocus israélien. Les deux pays avaient ensuite rappelé leurs ambassadeurs en 2018 après la mort du manifestant palestinien à Gaza. Israël et la Turquie ont récemment salué un tournant dans leurs relations avec la visite du président Isaac Herzog en mars en Turquie, une première d'un chef d'État israélien depuis 2007.
Un chef taliban rebelle afghan issu de la minorité chiite, Hazara, a été tué alors qu'il tentait de fuir en Iran, a déclaré aujourd'hui le ministère afghan de la Défense en démentant des informations selon lesquelles il aurait été tué en détention. Mehdi Mouajid avait rompu avec le mouvement taliban quand celui-ci l'avait démis en début d'année du poste de chef des renseignements dans la province de Bamiyan, dans le centre du pays, en majeure partie peuplée de Hazara. Il avait été nommé en août 2021 quand les islamistes ont pris le pouvoir à Kaboul. Ici aux États-Unis, réveil électoral pour Liz Cheney, la porte-voix des républicains anti-Trump. La députée Liz Cheney s'est inclinée hier face à Harriet Hagman, une candidate soutenue par l'ancien président, lors d'une primaire républicaine dans le Wyoming. La défaite de Liz Cheney constitue une victoire importante pour Donald Trump dans la campagne que mène celui-ci pour mettre en échec les élus républicains, s'étant prononcé l'an dernier en faveur de sa destitution à la suite des troubles meurtriers du Capitole à Washington. Les principaux responsables politiques en Irak se sont engagés aujourd'hui à œuvrer à une feuille de route pour tenter de sortir le pays de l'impasse lors d'une réunion boudée par l'incontournable leader chiite Muqtada Sadr. Dans un communiqué publié à l'issue de cette réunion convoquée à l'initiative du Premier ministre, ils ont d'ailleurs invité le courant Sadris à s'engager dans un dialogue national. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Kalani.
Le Rwanda et la banque autrichienne UniCredit ont signé un accord de 7,5 millions d'euros, dont 15% de subventions pour la création d'un centre de formation technique et professionnelle dans la zone économique spéciale de Kigali. Il permettra aux étudiants d'acquérir des compétences en haute technologie dans l'industrie. Il permettra aussi des échanges académiques et d'expertise du secteur industriel pour améliorer les compétences dans les marchés du travail. En Égypte, le gouverneur de la Banque centrale, Tarek Amer, a démissionné ce mercredi alors que son mandat courait jusqu'en 2023. L'inflation est à 15%. La livre égyptienne est à son deuxième plus bas niveau historique, s'échangeant à 19,1 livres. Le Caire a encore dévalué sa monnaie en mars et la dévaluation ne cesse de réduire le pouvoir d'achat des ménages. Pour terminer, la NABJ, la plus grande organisation américaine de journalistes et de professionnels des médias de couleur, vient de décerner à la Banque africaine de développement le prix Salute to Excellence pour sa campagne de marketing en ligne. Celle-ci fournit des technologies agricoles respectueuses du climat à des millions d'exploitants agricoles africains, les aidant ainsi à produire davantage de denrées alimentaires pour stimuler la production alimentaire et réduire la dépendance aux importations.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Le Burkinabé Issa Kabore rejoint l'Olympique de Marseille.
Oui, le latéral droit burkinabé a été prêté par Manchester City à Marseille, dont il est la 10e recrue cet été. Issa Kabore, qui est âgé de 21 ans, sera le concurrent à droite de Jonathan Klaus, lui aussi recruté cet été pour occuper l'un des postes de piston essentiel dans le dispositif de Igor Tudor. La saison dernière, il avait été prêté à Troyes, club membre du City Football Group, qui regroupe plusieurs clubs satellites de Manchester City. Le nouveau joueur de l'OM compte déjà 34 sélections avec le Burkina Faso et a été élu meilleur jeune de la dernière CAN disputée en début d'année au Cameroun. L'OM n'a pas précisé si une option d'achat était attachée auprès du joueur.
Mondial 2022, le match Brésil-Argentine comptant pour les qualifications est annulé.
Initialement reporté au 22 septembre et dépourvu d'enjeu, les deux équipes étant qualifiées, cette rencontre a été définitivement annulée selon l'annonce faite par les fédérations des deux pays. La Confédération brésilienne de football et l'Association du football argentin et la FIFA ont réglé le litige devant le tribunal arbitral du sport, indiquent deux communiqués distincts des deux fédérations. Ce choc, initialement programmé le 5 septembre 2021 à Sao Paulo, a été interrompu après seulement 5 minutes de jeu sur intervention des autorités sanitaires locales. Quatre joueurs de l'Albi Céleste évoluant alors en Angleterre étant accusés de violer le protocole anti-Covid en avril, la FIFA avait décidé que le match serait rejoué le 22 septembre, mais les deux sélections qualifiées pour le mondial sans la moindre défaite n'ont jamais affiché leur volonté de rejouer ce match sans enjeu purement sportif.
Tennis, Serena Williams battue au premier tour de Cincinnati.
L'Américaine a été balayée au premier tour du tournoi WTA de Cincinnati par la Britannique Emma Raducanu, 6-4-6-0. Serena Williams, qui a annoncé à 40 ans sa retraite après l'US Open, à la fin du mois, a quitté rapidement le court après sa défaite. Sans un mot aux journalistes, elle a pu jouer en 2022 avec 4 matchs seulement en raison d'une blessure. Sa dernière victoire en simple sur le circuit WTA remonte au 4 juillet 2021 lors d'un troisième tour victorieux à Roland-Garros quelques semaines avant de déclarer forfait au premier tour de Wimbledon en raison d'une blessure à une jambe. Elle s'est
s'est ensuite absenté pendant près d'un an, ne faisant son retour en simple que fin juin à Wimbledon, où elle a été battue d'entrée. Sa sœur aînée, Venus Williams, a aussi perdu 7-5-6-1 face à la Tchèque Karolina Pliskova, ancienne numéro 1 mondiale.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Direction le Mali, 18 août 2020, 18 août 2022. Cela fait 2 ans que le régime du défunt président Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé par un coup d'État. Les auteurs de ce putsch avaient promis, entre autres, de lutter contre le favoritisme et la recrudescence des attaques terroristes. 2 ans plus tard, quel bilan font les Maliens? Reportage de notre correspondant Mohamed Dagnoko.
Demain, 18 août, marque l'an 2 du coup d'État perpétré par les 5 colonels. Dirigé dans un premier temps par le duo Bandao Moctarouane, la transition sera à la faveur d'une rupture opérée en mai 2021, dirigée par le colonel Assimi Goïta. La prise de pouvoir par les militaires a-t-elle permis d'améliorer le quotidien des Maliens, selon Arkia Touré, journaliste? Si l'on tient compte du coût actuel de la vie, pas grand-chose a changé.
2 ans après, je crois que la situation reste encore critique au Mali. Sur le plan politique, on a du mal à avancer sur certains points. 2 ans après aussi, il y a eu des situations remarquables, surtout avec le départ de la France. 2 ans après, la sécurité, peut-être il y a eu des acquis sur le plan militaire avec l'acquisition de matériel et d'autres engins, mais la stabilité sécuritaire nécessaire n'est toujours pas revenue.
S'il y a bien un aspect sur lequel les Maliens s'accordent à reconnaître qu'il y a eu des avancées notables, c'est celui de la lutte contre le terrorisme. Alpha Sidiki Sangaré témoigne.
La montée en puissance de l'armée est sans conteste. C'est d'ailleurs la seule action positive qu'on peut mettre à l'actif des autorités de transition. Même si ça et là, il y a des violences qui aboutissent à la mort des soldats. Mais de façon nette, les nouvelles autorités de la transition ont travaillé à renforcer les capacités opérationnelles de l'armée. Il y a eu des nouvelles acquisitions et ces acquisitions continuent.
Le mouvement du 5 juin du Rassemblement des Forces Patriotiques, M5-RFP, à la base des manifestations qui ont abouti au renversement du régime, s'est disloqué après le 18 août. Après le retrait de l'imam Mahmoud Diko, plusieurs leaders, dont Modibo Sidibé, Kounimba Sidibé, Madame Sika Yatosso, viennent de lancer un M5 nouvelle version. Une situation qui, selon Alpha Sidiki Sangaré, était prévue.
Depuis l'origine, et ce mouvement est constitué par des partis, des regroupements qui ne partagent pas forcément la même philosophie, la même orientation politique et idéologique. Donc la crise qui vit, que le M5 vit, était déjà perceptible.
Si le nouveau chronogramme électoral est respecté, le Mali aura un président démocratiquement élu à partir d'avril 2024. Mais pendant ces 2 années, il y a toujours eu une seule constante, c'est la détérioration continue des relations avec la France. Mohamed Dagnoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
La RDC a accueilli ce mercredi le 42e sommet de la SADC, la communauté de développement des pays de l'Afrique australe. Au cours de ces travaux, les chefs d'État de la région ont parlé de la sécurité, de la démocratie, ainsi que du développement des infrastructures d'intégration en Afrique australe. À l'issue de ce sommet, le président congolais Félix Tshisekedi a pris les rênes de cette organisation. Les détails avec notre correspondant à Kinshasa, Alex Katikatayi.
Avant de passer les commandes au président Félix Tshisekedi de la RDC, le président Lazarus Chikwera du Malawi a tenu à remercier ses pairs pour les progrès démocratiques observés dans la région de la SADC. Le président Chikwera a salué la passation pacifique du pouvoir en Zambie. Il a appelé la SADC à renforcer la démocratie qui constitue le fondement de la stabilité et du développement de la région. Pour sa part, le président entrant de la SADC, le Congolais Félix Tshisekedi, a annoncé que son mandat à la tête de la SADC sera axé sur le développement des infrastructures d'intégration régionale.
Durant mon mandat, je m'activerai à implémenter les programmes destinés à développer les infrastructures et les services de la région qui sont en lien direct avec nos principales stratégies qui visent à stimuler l'intégration économique et à éradiquer la pauvreté dans la région de la SADC.
Félix Tshisekedi a affirmé qu'il s'employera à stimuler la transformation économique et technologique dans la région en mettant l'accent sur les efforts à consentir au développement des chaînes de valeur régionales.
Je m'emploierai à promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, de la valorisation des minéraux et des chaînes de valeur régionales afin d'atteindre une croissance économique inclusive et durable, et ce, en travaillant de concert avec les États membres, le secteur privé et les partenaires au développement.
Prenant la parole pour la première fois dans un sommet de la SADC, le nouveau président de la Zambie, Hakainde Hichilema, a mis l'accent sur la transformation des ressources naturelles. Hichilema estime que la transformation des ressources minières et agricoles sur les continents favoriserait la croissance économique et le développement. Sur ces points, la RDC et la Zambie travaillent sur un projet commun de fabrication des batteries et des voitures électriques. Les juristes et analystes politiques César Mpoy estiment que ce mandat de la RDC permettra l'avancement de ces projets intégrateurs.
Aujourd'hui, la RDC a signé des contrats avec certains pays voisins de la SADC, j'entends la Zambie notamment, l'Afrique du Sud. Nous espérons que ce mandat va aider la RDC à pousser pour la concrétisation de tous ces projets qui sont des projets d'intégration économique au niveau de la région. Ce mandat devra aussi aider la RDC à porter sa voix pour qu'enfin la situation sécuritaire au niveau de l'Est de la RDC se normalise.
Cette situation sécuritaire dans l'Est de la RDC a été évoquée par le président zambien. Dans son allocution, Hakainde Hichilema a appelé ses homologues à aider la RDC à retrouver la paix. Hichilema affirme que sans la paix en RDC, toutes les projections du développement qu'on peut faire pour la sous-région seront inutiles. Alex Katikatai, Kinshasa, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Tchad, l'organisation du dialogue national inclusif et la conduite de la transition a été au centre de la visite de travail du président sénégalais Macky Sall à N'Djamena. Le président en exercice de l'Union africaine a salué le progrès qui a abouti à l'accord signé entre les politico-militaires et le gouvernement de transition à Doha au Qatar, une déclaration critiquée par l'opposition et la société civile. André Kodmajinga, correspondant VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
Nous avons naturellement échangé sur ce point dans la perspective du dialogue national inclusif qui va démarrer le 20 août après la signature de l'accord de Doha.
Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, tout en félicitant les autorités tchadiennes et qataries d'avoir convaincu les groupes rebelles à faire la paix avec N'Djamena, il demande aux autres groupes qui n'ont pas paraphé le document à entendre raison.
Je saisis l'occasion pour appeler l'ensemble des groupes qui n'ont pas encore signé l'accord pour rejoindre le dialogue dans l'esprit de Doha. Autant faire la paix quand l'opportunité se présente. Et l'Union africaine sera là pour vous accompagner et vous soutenir. N'oublions pas que notre ennemi commun à tous, c'est le terrorisme pour lequel le Tchad continue de payer un lourd tribut.
C'est un soutien aveugle que l'Union africaine apporte aux autorités de transition puisqu'elle sait très bien qu'aucune de ses résolutions n'a été respectée par le Conseil militaire de transition.
L'obligation de réviser la charte, l'obligation de tenir la transition sur les 18 mois. Ils savent que ça ne sera pas respecté. L'engagement pris par les membres du Conseil militaire de transition de ne pas se présenter, ils savent qu'ils veulent se présenter. Donc rien que ces trois résolutions phares qui étaient celles de l'Union africaine, derrière lesquelles la communauté internationale s'est alliée, le président Macky Sall ne s'est pas prononcé là-dessus.
Docteur Sixé Masra, président du parti Les Transformateurs. Pour lui, il appartient au peuple tchadien de prendre son destin en main.
Les Tchadiens qui ont été à la base de la contestation populaire et les politicos armés qui ont été à la base de l'attaque sur N'Djamena, tout ça conjugué qui a occasionné l'obligation de ce dialogue, aucun de ces acteurs principaux là n'est prêt à participer au dialogue. Nous devons être capables quand même de demander à l'Union africaine et ses engagements sur lesquels vous vous êtes accordés, s'ils ne sont pas respectés, serions-nous encore en droit d'accorder un crédit à la parole de l'Union africaine et deux, à la parole des militaires qui sont arrivés à la tête du pays.
Pour les organisations de la société civile, les Tchadiens ne peuvent pas continuer à être sacrifiés à cause de la lutte contre le terrorisme. Gounou Vaima Gamfare est le secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad.
Il faut regarder quand même le peuple et se souvenir quand même que le peuple aussi a des droits. Mais je pense que les jours qui viennent, on saura exactement qui a raison, qui a tort. Il ne faut pas vraiment nous sacrifier sur l'autel vraiment de la sécurité.
Maître Max Luangar, porte-parole de Wati Tama, un mouvement hostile au conseil militaire de transition depuis sa mise en place, appelle la population tchadienne à descendre dans la rue les 19 et 20 août prochains pour exiger un vrai dialogue inclusif.
Les gens ont décidé d'enterrer le Tchad et donc tous les leaders doivent comprendre que le dialogue qui s'annonce n'est pas inclusif. Wati Tama va se faire sentir le 19, le 20 et le 21 si le dialogue est maintenu.
Le dialogue national inclusif qui doit se tenir en Djamena le 20 août prochain connaît déjà ses premières fissures bien avant son ouverture officielle. André Kordoma Djingar, Djamena, pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la victoire de William Ruto à la présidentielle kényane face aux vétérans de la politique Raila Odinga. Le vice-président, âgé de 55 ans, n'a pas obtenu le soutien de son patron, le président Uhuru Kenyatta, qui a préféré jeter son dévolu sur son ancien rival. En attendant la confirmation ou non de sa victoire par la justice, Ruto a promis de travailler avec tous les leaders politiques. Les appels au calme se multiplient dans ce pays qui a déjà vécu des crises post-électorales sanglantes. Pour tirer les enseignements de ce scrutin et son importance pour la région, rendez-vous ce jeudi à 19h.
Des inondations records à la frontière ouest entre le Cameroun et le Nigeria ont tué au moins 6 personnes, emporté des maisons et détruit des milliers de tonnes de nourriture destinées à l'exportation, affirment les autorités de Yaoundé. Les agriculteurs et les commerçants soutiennent que les aliments périssables commencent à pourrir car l'accès à la zone a été coupé. Reportage de Moki Edwin Kinzeka, depuis Yaoundé au Cameroun, le récit est de Nanit Talani.
Des habitants appellent à l'aide alors qu'ils enlèvent des amas de terre et de pierres d'une route dans le district de Widikoum, à la frontière du Cameroun avec le Nigeria. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, les responsables de Widikoum demandent au gouvernement camerounais d'aider à nettoyer la route pour leur permettre de quitter Widikoum. Paul Okafor, un commerçant du Nigeria, achète de l'huile de palme et des légumes à Widikoum pour les revendre dans son pays.
Les inondations et les glissements de terrain m'ont bloqué à Widikoum pendant 5 jours. Pendant 5 jours, aucun véhicule n'a pu sortir ou entrer dans Widikoum parce que les eaux ont couvert les routes et les glissements de terrain depuis les collines ont enseveli des routes.
Ce commerçant affirme que les légumes et les tomates qu'il avait achetés commencent à pourrir et que les producteurs de légumes se plaignent de leur récolte qui se décompose. Ondo Sanilos, maire du district de Widikoum, reconnaît que les inondations qui ont déclenché des glissements de terrain ont tué 6 personnes, laissé des centaines de sans-abri et détruit des maisons et des entrepôts.
Les inondations ont emporté les maisons. Au moment où je parle, il y a plus de 55 personnes qui n'ont rien à manger. La commune essaie de mobiliser des ressources, alors j'envoie ce SOS au gouvernement et aux personnes de bonne volonté pour venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin.
Les inondations ont aussi détruit un pont sur la rivière Momo et des centaines de commerçants sont bloqués des deux côtés de la rivière. Momo, unité administrative où se trouve Widikoum, est un bassin de production d'huile de palme, de maïs, de pommes de terre, de tomates et de légumes. L'Observatoire national du Cameroun sur le changement climatique a prédit le mois dernier que des inondations et des glissements de terrain toucheraient de nombreuses villes et de nombreux villages. Forgab Patrick, directeur général adjoint de l'Observatoire, affirme que les maisons construites dans des zones à risque ont aggravé la situation.
Our projections
clearly indicate that
les gens construisent dans les zones marécageuses. L'eau ne peut pas circuler correctement parce que les maisons bloquent même les cours d'eau. Et en fin de compte, ceux qui vivent dans ces maisons sont tous exposés.
Le gouvernement camerounais indique qu'il éduque les gens à cesser de s'installer dans les zones à risque sans préciser s'il fournira la nourriture et l'eau aux victimes.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde, Lionel Gaïba. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.